Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet, présenté par Mel et JR, un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G et bienvenue, vous écoutez Pop Flash, je suis JR et je serai aujourd'hui pour cette 6e édition de l'émission accompagné de Mel encore une fois pour vous présenter du coup cet épisode. Ah, bonjour Mel, comment tu vas?
Bonjour, ça va très bien, merci, et toi JR?
Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, du coup, pour cette dernière émission de l'année, on se retrouve, comme d'habitude, pour nos chroniques habituelles. On commencera, du coup, avec la chronique Game Pop présentée par Mel. S'en suivra une chronique Qu'est-ce qu'on lit? Et ensuite, la première pause musicale. En revenant, on va tout de suite commencer avec la chronique, du coup, lancer les dés, sur lequel je vous présenterai aujourd'hui un petit jeu de rôle qui me plaît, et on parlera aussi tout simplement dans Pop and Clap, dans un animé et d'une série qui nous plaît particulièrement à moi et à Mel. Après ça, du coup, on aura une deuxième pause musicale et on se retrouvera tout simplement pour le bric-à-brac pour un tu préfères tout simplement fait avec Mel. J'espère que ça va vous plaire et tout de suite, on commence tout de suite avec du coup la rubrique Game Pop. À tout à l'heure. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain des Game Awards 2024, l'événement incontournable du jeu vidéo qui souffle cette année sa 10e bougie. Préparez vos manettes, ça va être épique. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, les Game Awards reviendront avec un show spectaculaire mêlant annonces exclusives, performances live et bien sûr la célébration des meilleurs jeux de l'année. Geoff Keighley, l'hôte emblématique, a promis une soirée mémorable. Dans la catégorie reine jeu de l'année, les prétendants sont féroces. On retrouve Elden Ring, Shadow of the Erdtree, l'extension qui continue de fasciner les joueurs. Final Fantasy 7, Rebirth, le remake qui redéfinit les standards. Black Myth Wukong, un jeu visuellement époustouflant, et bien d'autres titres comme Métaphore, Fantasio ou encore Astrobot qui surprend par sa créativité. Les grandes tendances. Cette année, les remakes et extensions dominent. Que ce soit Silent Hill 2 ou Elden Ring, l'industrie mise beaucoup sur la nostalgie et les récits qui s'étoffent. À côté, les jeux indépendants comme Neva ou Balatro prouvent que l'innovation peut venir de petits studios. Et si les Game Awards, c'était aussi l'occasion de rêver, les rumeurs fusent. Un possible teaser de la Nintendo Switch 2, des nouvelles de Hollow Knight Skillsong ou encore une annonce de Hazelight Studio, les créateurs de It Takes Two. Imaginez si Grand Theft Auto 6 faisait une apparition surprise. Pardon, dans l'équipe de Pop Flash, les débats vont bon train. Pour le jeu de l'année, Elden Ring semble être le favori. Mais attention, Final Fantasy 7 Rebirth qui a conquis les cœurs. Et vous, pour qui votez-vous dans le chat et JR.
Moi, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait autant de remakes et surtout qu'il y ait, même si c'est un jeu à part entière en soi, mais une extension. Je pense que justement, comme tu dis dans les, je sais pas, plages, il y a les débats vont bon train, mais je trouve que pour l'instant, l'industrie du jeu vidéo mise un peu trop sur la nostalgie, si bien que pour l'instant, on a un peu soit des suites de jeux médiocres, soit des remakes qui n'apportent rien, étant donné que c'est un remake, soit heureusement qu'il y a la scène indépendante qui nous propose de bonnes choses. Mais je trouve quand même qu'on a un peu, pour les Game Awards aujourd'hui, je dirais Elden Ring, l'extension, mais c'est une extension.
Ben justement, ça fait beaucoup débat, ça, parmi la communauté. J'ai regardé un petit peu les avis et tout ça sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui disent que ça ne devrait pas faire partie des meilleurs jeux de l'année, vu que c'est une extension, c'est un DLC. C'est comme si on mettait... Il y en a beaucoup qui ont poussé le truc un peu plus loin, mais c'est comme si on mettait un DLC Sims 4 dans le meilleur jeu de l'année. Tu vois,
ouais, c'est clairement ça.
Et donc, y a beaucoup de gens qui râlent par rapport à ça, effectivement. Moi, j'ai pas trop d'avis parce que je sais pas trop si c'est legit ou pas. Ça reste quand même du travail, ça reste un peu une sorte de suite, sachant qu'en plus de ce que j'ai compris, il y aura pas de Elden Ring 2. Par contre, de ce que j'ai compris, les créateurs ont dit que il y aura plusieurs DLC qui seront eux-mêmes des suites, en fait. à l'intérieur du jeu. Donc, est-ce que du coup les DLC font partie des jeux quand même ou pas? Je sais pas trop. Moi, en tout cas, j'espère que c'est Zelda Echoes of Wisdom qui gagnera sa catégorie dans le meilleur jeu aventure.
Bah, en vrai, j'entends ce que tu dis et j'entends aussi cet argument, hein, parce que c'est un argument qui est réel et qu'il faut prendre en compte, c'est du travail tout ça. Mais c'est pas un peu triste quand même qu'aujourd'hui on ait vraiment plus aucune nouvelle licence. Et quand je parle de nouvelles licences, je parle pas de licences qui ont été délaissées pendant des années et qui sont reprises aujourd'hui parce qu'en fait on veut essayer de toucher un public nostalgique. C'est dommage. Alors, je parlais de mon vieux. Je vais faire mon vieux écrit et je vais faire de mon temps. Mais de mon temps. On avait des nouvelles licences, on avait de nouveaux héros qui nous faisaient rêver et on avait moins de remakes, j'ai l'impression, vraiment, surtout dans l'industrie des AAA, que pour l'instant, ils font full chiasse.
Moi, je sais pas trop, j'avoue que je m'intéresse pas trop à ce genre de jeu, donc j'ai pas trop d'avis, mais voilà, moi j'espère que c'est Zelda Echoes of Wisdom qui gagnera dans sa catégorie jeu aventure. Non, mais lors de notre première émission, je vous avais parlé de Palworld et de son procès contre Nintendo pour vol de licence, notamment sur le fait que Nintendo accuse Palworld d'avoir plagié leur brevet, notamment sur le lancer de sphère pour Palworld ou Pokéball pour Pokémon. Eh bien, on a des news. En décembre, Palworld va sortir une énorme mise à jour avec une île deux fois plus grande que celle de sa dernière mise à jour, qui était, on va pas se mentir, déjà pas mal grand. Dans cette mise à jour, il y aura également un nouveau système de capture de pales, de lancer de sphères et ainsi que d'invocation de pales. Ça veut sûrement dire que Nintendo et Pocket Pair, le studio derrière Palworld, ont trouvé un compromis. Nintendo va peut-être, du coup, lâcher prise pour ce jeu. Nous restons en lien avec Pokémon pour la fin de cette chronique puisque je vous parle d'une nouvelle petite obsession que j'ai débloquée pour la franchise et plus précisément pour son jeu Pokémon TCG Pocket, un jeu mobile où le but est de collectionner des cartes Pokémon en ouvrant des boosters. Je peux vous dire une chose, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est cool. Pour être honnête, je suis pas une fan de Pokémon. J'ai joué peut-être 2 heures à Pokémon Lune sur Nintendo DS et j'ai dû jouer quelques heures à Pokémon Go. Bien sûr, petite, j'avais des cartes Pokémon, mais c'était plus de la collection sans vraiment y porter un grand intérêt. Alors quand j'ai vu de plus en plus d'amis jouer à Pokémon TCG, je me suis dit, mouais, bof. Puis finalement, je l'ai téléchargé pour voir ce que ça donne. Puis j'ouvre 1, puis 2, puis 3 boosters, etc. Et je découvre une passion pour collectionner les cartes sur le jeu. Je prends du plaisir à remplir des missions quotidiennes et annexes pour gagner des points et pouvoir ouvrir encore plus de boosters. Je me suis même finalement retrouvée à beaucoup aimer le système de combat contre des IA ou des vraies personnes. Je crée mon propre deck et je prends du plaisir à combattre, à comprendre les Pokémon, leur évolution, etc. En bref, ce jeu mobile m'a fait apprécier un peu plus la licence Pokémon. Peut-être parce qu'il y a ce système de gacha, c'est-à-dire qu'on fait des missions, on reçoit des récompenses qui permet d'acheter des boosters et recevoir des cartes pour augmenter de niveau et nous améliorer. Mais moi, ce genre de système, ça marche très très bien sur moi, en tout cas. Toi, JR, je sais que tu joues aussi à TCG Pocket.
Oui, je joue aussi, j'aime bien. Alors, j'y joue moins que toi pour l'instant parce qu'en effet, t'as une petite obsession. Et je joue moins probablement que la plupart de mes potes, mais j'aime bien, même si c'est très gacha. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de théoriser sur le fait que ça va peut-être devenir une nouvelle forme de NFT.
Oui.
Et autre chose, alors, il y avait des gens qui râlaient sur le fait qu'il fallait payer pour tout avoir. C'est plus ou moins faux, étant donné qu'on a des amis qui ont déjà réussi à tout avoir uniquement sans payer. Mais j'avoue que le côté gacha un peu addictif, moi j'avoue que j'ai du mal, mais après encore une fois c'est mon avis.
Bah, moi ça marche très très bien sur moi ce genre de jeu, donc effectivement c'est pour ça que j'apprécie énormément. C'est tout aujourd'hui pour Game Pop. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes sur Radio G101.5 FM, la radio angevine, disponible en DAB+, et vous écoutez Pop Flash. Et je laisse la parole à JR.
Bien, écoute, merci beaucoup Mel, et du coup bah, on va tout de suite enchaîner. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique Game Pop? Moi personnellement j'ai adoré, mais on va tout de suite enchaîner du coup avec la rubrique Qu'est-ce qu'on lit. On revient tout de suite après la petite virgule pour l'annoncer.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
du coup, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous présente, je pense, un de mes premiers comics que j'ai acheté de manière indépendante. Enfin, un comics qui venait d'une maison d'édition qui, à l'époque, je ne connaissais pas, qui est simplement de... Bah, c'est Chez Glénat, donc c'est pas du tout une maison indépendante, mais c'était fait par un auteur que je ne connaissais pas, c'est Contre Natura. Alors, petit trigger warning, c'est un comics BD pour adultes, pour changer encore une fois. Et voici son synopsis. Une loi a été faite pour... Et voici un petit synopsis très rapide. Une loi est faite pour être transgressée. Dans un monde qui est peuplé d'animaux anthropomorphes et dont la loi interdit en fait tout simplement les liens interespèces, entre guillemets, une jeune femme va commencer à faire des rêves assez étranges et va se lever contre cette loi, ce qui va mettre en avant une prophétie auquel elle pourrait être le centre. C'est assez flou, c'est assez concis comme d'habitude, mais j'essaye de vous en dire le moins possible. Est-ce que j'ai aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Contre Natura, c'est une très très belle BD. C'est un très beau bébé de 260 pages environ, et qui traite de beaucoup de sujets, qui va parler de racisme, qui va parler d'attente par rapport à nos proches, et qui va aussi parler de manière plus globale, tout simplement, d'une société qui est profondément dysfonctionnelle et dans laquelle, si on veut que les choses changent, il va falloir tout simplement peut-être se salir les mains. Comme d'habitude, je vais saluer les dessins que je trouve très beaux, même si, encore une fois, c'est pour un public qui est adulte, du coup, vous allez voir de la fesse. Et donc si ça vous dérange pas, c'est tant mieux, mais je sais que certaines personnes, ça pourrait les choquer. Mais voilà, ce sont des très beaux dessins, ce sont des dessins qui sont très très détaillés et qui sont agréables à regarder. Je précise juste, c'est pour adultes, on voit de la fesse, mais il n'y a rien de porno, il n'y a rien de profondément explicite. C'est souvent sous-entendu, mais on ne voit pas d'actes de manière comme on pourrait voir dans un Big H. J'aime beaucoup les sujets qui sont traités, j'aime beaucoup les personnages, encore une fois, personnages bien traités, des personnages qui sont humains, parce qu'évidemment, animaux anthropomorphes, c'est souvent très proche de l'humain, c'est pour représenter une certaine forme de l'humanité, et c'est très agréable. Petit bémol que j'aurais à dire, c'est peut-être tout simplement la fin, qui est peut-être un tout petit peu prévisible, mais dans l'ensemble, quand c'est sorti, c'était une très très bonne surprise. Je pense qu'à l'époque, je l'avais acheté parce que j'avais vu une critique dessus, et je pense que c'était une critique du chef otaku à l'époque. J'en sais rien, en fait, je suis pas sûr, je crois que c'est ça, mais j'étais tout de suite allé l'acheter. Il m'avait coûté 25€ à l'époque, je sais pas combien il coûte aujourd'hui, il est disponible évidemment au Repère des Héros ou à la Fnac. C'est un très 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 bon comics et voilà, encore une fois, sujet sérieux bien traité. Je cherchais d'autres choses à dire, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que ça t'a donné envie de le lire ? Je sais pas si tu l'avais lu, Mel, d'ailleurs, vu qu'on l'a à la maison.
Moi je l'ai lu, je me souviens plus de tout parce que ça fait très longtemps qu'on l'a. Je me souviens juste que la femme avait laissé un goût d'inachevé.
Et là, tu viens de me rappeler quelque chose, parce que en effet, en fait, la fin, c'est pas que c'est un goût d'inachevé, parce que en l'ayant relu quelques fois pour justement écrire la chronique, je me rends compte que la fin est une fin où c'est entre guillemets la fin dont on pouvait s'attendre. C'est une fin qui est assez satisfaisante. En fait, le seul truc que je pense qui donne ce goût d'inachevé justement dans cette fin, c'est le fait que la dernière image, que je ne spoilerai pas, pourrait donner en fait sur une suite tout simplement, et que aussi en fait toute l'histoire est basée sur un cycle tout simplement, je ne peux pas en dire beaucoup plus sans spoiler, sur un cycle, et que du coup certes là en fait le cycle a été j'arrête là, mais que du coup en fait encore une fois ça s'est amené à se répéter, et j'avoue que encore aujourd'hui, j'aurais bien aimé voir un Contre Natura 2 ou un Contre Natura prequel pour voir en fait l'origine entre guillemets du mal. Et c'est peut-être pour ça qu'on a justement ce goût d'inachevé. Et c'est peut-être pour ça du coup que ça peut être parfois vu comme frustrant.
Oui, c'est ça en fait, de ce que je me souviens. En fait, je pensais qu'il allait avoir une suite, qu'il allait avoir un tome 2, etc. Et en fait, non, pas du tout, il me semble. Et effectivement. C'est pour ça que j'ai eu ce goût d'inachevé. Je me souviens parfaitement de ce sentiment d'inachevé, quoi. Donc c'est un peu dommage sur la fin, mais tout le reste sinon était très intéressant. Et effectivement, j'aime beaucoup les dessins également.
Les dessins sont très très beaux. Ça a été écrit du coup par Mirka Andolfo. Désolé si j'écorche un peu le tour. C'est une autrice italienne qui est connue pour pas mal de trucs visiblement, mais que moi je ne connais pas. Là je suis en train de regarder un peu ce qu'elle a fait, pour être franc. Et je vois en Contro Natura, tome 2, sorti en 2022. Non, ok, d'accord, non, je comprends mieux. C'est juste qu'en fait, elle avait sorti la BD en deux fois et qu'il y a en intégrale. Acheter l'intégrale, c'est mieux. Du coup, j'ai un petit bug, désolé. Mais voilà, du coup, Contro Natura, c'est disponible chez Glénat et du coup, on repère des héros ou à la FNAC. Lisez-le. Et pour la suite, du coup, je vais vous parler dans manga. Je vais vous parler de mon manga préféré. Mon manga préféré, je pense que c'est un classique pour beaucoup. C'est tout simplement Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist est écrit par Hiromu Arakawa, qui est aussi connu pour Silver Spoon et Tsugai. Il faut savoir que je suis un très très grand fan de cette autrice. J'adore tout ce qu'elle fait en fait. Même Tsugai, qui fait un peu plus débat, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Ok, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'elle ait écrite. Silver Spoon, c'est pépite, c'est drôle, c'est bien, et on sent qu'elle connaît en fait son domaine, étant donné que Silver Spoon, c'est un manga qui est lié directement à tout ce qui va être agriculture, et que je crois que ses parents sont agriculteurs. Mais bref, aujourd'hui on parle de Fullmetal Alchemist, qui est du coup le manga qui l'a fait connaître en Europe. Et Fullmetal Alchemist, c'est quoi pour les trois du fond qui ne l'ont jamais vu? Fullmetal Alchemist, c'est l'histoire des frères Elric, donc Edouard et Alphonse, qui suite à la mort de leur mère ont essayé de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire et dans lequel ils ont tout simplement perdu certains membres de leur corps. On les suit quelques années plus tard, après être devenus alchimistes d'État, dans leurs aventures au sein du coup d'Amnestrie, qui est du coup le pays dans lequel ils sont. Alors, je pose même pas la question de si j'ai aimé, vu que je viens de vous dire que c'était mon manga préféré. Mais pourquoi est-ce que c'est bien? Fullmetal Alchemist, c'est un manga qui est déjà terminé, du coup vous pouvez tout à fait acheter tous les tomes. C'est un manga, encore une fois, avec des personnages qui sont attachants, bien écrits, avec certains personnages, avec des personnages forts, aussi bien masculins que féminins, et surtout avec des enjeux qui sont inspirés en fait de la réalité, dans un univers qui est pas fantaisiste. Du coup, évidemment, Fullmetal Alchemy, vous doutez bien que l'alchimie sera au milieu de tout ça. Mais voilà, des dessins qui peuvent amener à débat, mais que personnellement j'aime beaucoup. On sent une véritable maîtrise en fait de l'autrice. Et voilà, l'histoire est prenante, les personnages sont bons, les méchants sont excellents, et tous les personnages secondaires, je crois qu'il n'y a pas un seul personnage secondaire que j'ai trouvé mauvais. Après, du coup, vous me direz bien, bon, JR, c'est bien, tu fais ton fanboy, mais est-ce qu'il y a des points négatifs, toi qui es toujours aussi bon de pointer les points négatifs? Eh bien, je veux dire que oui, il y en a. Lesquels, c'est une très bonne question, et je vous dirais tout simplement que peut-être que le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est le premier animé qui a été fait sur ce manga. Il s'est terminé avant la fin du manga, si bien que en fait, ils ont pris certaines libertés que je trouve personnellement pue la merde. Et du coup, forcément, il y a certaines personnes, dont une personne que je connais très bien, qui était dégoûtée en fait de ce chef-d'œuvre. Du coup, moi, si je pourrais vous dire quelque chose, c'est tout simplement lisez Fullmetal Alchemist, c'est édité chez Kurokawa, vous pouvez le trouver au Repère des Héros, à Azumanga ou à la FNAC. Et du coup, après avoir parlé de ça, est-ce que toi, Mélanie, ça t'a donné envie de revoir ce chef-d'œuvre?
Alors, peut-être pas de le voir, mais de le lire, pourquoi pas. Et attention, j'ai le doigt menaçant de JR juste à côté de moi. Effectivement, il faudrait que je me relance dedans, peut-être en animé, parce que c'est plus court que le manga. C'est vrai que moi, j'avais vu le premier animé, qui était une catastrophe. Le et vraiment, je te jure que ça m'a tellement dégoûtée que du coup, j'ai jamais pu regarder la suite, j'ai jamais pu lire. Ça m'a vraiment, vraiment, j'étais... Non.
Le traumatisme.
Et ouais, voilà, trauma par un animé mauvais. Mais j'essaierai de lui laisser une chance, c'est promis. Peut-être en résolution... pour janvier de 2025.
Après, plus que Fullmetal Alchemist, moi je dirais tout simplement de lire du Hiromu Arakawa, parce que ce soit... Alors, Tsugai, encore une fois, fait débat. C'est en train de sortir et ça fait un peu débat parce que certaines personnes disent que c'est pas bon. Et je sais que même l'autrice n'est pas spécialement heureuse de ce qu'elle a fait. Mais par contre, Silver Spoon, si vous voulez déjà découvrir peut-être un peu la patte de l'autrice, Silver Spoon peut être une bonne porte d'entrée. Sinon, bah, évidemment, Full Metal Alchemist. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Bah, si, j'ai fait le tour en fait de tout ce qui se passe pour l'instant dans Qu'est-ce qu'on lit. C'était une chronique peut-être un peu plus courte que d'habitude. J'ai pas l'impression, j'en sais rien. De toute façon, là, on s'arrête pour Qu'est-ce qu'on lit et on va tout de suite vous laisser avec la première musique. La première musique, c'est Paint the Town Blue, qu'on peut retrouver encore une fois dans la série Arcane et qui a été écrite et chantée par Ashi. H Nico. Peut-être que j'écorche le nom. Si j'écorche le nom, je suis désolé. En tout cas, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
On est de retour du coup après cette musique que personnellement j'aime beaucoup. Je la trouve peut-être un peu courte, mais j'aime beaucoup tout simplement. Alors, on se retrouve du coup tout de suite pour tout simplement pour Pop and Clap. Pop and Clap, du coup, aujourd'hui on va vous parler de deux séries d'animation, si je ne me trompe pas. Et du coup, on se retrouve juste après la petite virgule d'annonce. À tout à l'heure. Action, émotion et un peu de pop-corn, bienvenue dans Pop and Clap. Et du coup, aujourd'hui, dans Pop and Clap, on va vous parler de deux séries différentes. On va vous parler de Gentry Show, qui est une série qui est du coup sortie en décembre 2024 sur Netflix. On va tout de suite commencer par parler de Gentry Show. Gentry Show, c'est une série qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps avec Mel. On a regardé déjà les 4 premiers épisodes. On n'a pas pu vraiment le binge-watcher parce que sinon, en fait, ça voudrait dire pas dormir. Et dormir, c'est important. Et Gentry Show, ça parle de quoi? Gentry Show, ça parle de Gentry Show. Non, sans déconner. Et Gentry Show, c'est une jeune fille, du coup, qui a 16 ans, qui est d'origine chinoise et dont la famille habite au Texas. Qui, à la suite de différents événements, va se retrouver à devoir se battre contre des démons. Est-ce que le titre le laissait présager? Peut-être. Est-ce que c'est bien Gentry Show? Gentry Show, franchement, pour ce qu'on en a vu pour l'instant, alors évidemment, on en a vu que le début, et ça nous permet de nous faire un premier avis dessus, c'est de la très très bonne cam. C'est encore une fois une animation qui, par contre, pour le coup, j'avoue que j'en avais un peu de mal. En fait, j'essayais de chercher à quoi me faisait penser l'animation de Gentry Show, et en fait, je sais à quoi ça me fait penser, mais c'est peut-être quelque chose qui ne vous parlera pas. L'animation me fait penser un peu à l'animation de Scissor Seven. Et Scissor Seven, c'est une animation qui est particulière, mais qui, quand on s'y habitue, est très agréable. C'est une animation qui, du coup, est très crayonnée, je dirais. Je sais pas si ça se dit. En fait, j'ai l'impression qu'on voit énormément en fait les traits du crayon, ce qui donne un peu cette impression d'animation 2D faite à la main, ce qui n'est pas le cas évidemment. Mais voilà, bon déjà du coup, premier point fort, comme je le disais, c'est l'animation. C'est une animation qui est très colorée et qui a... Et qui est en véritable plus, parce que ça permet de communiquer en fait un certain nombre d'émotions qui servent en fait cet animé comme personne. Mais ce n'est pas le seul point positif de Gentry Show, c'est que déjà l'histoire est une histoire qui semble être assez originale, je dirais. Dans le sens où on n'a pas ce cliché, enfin si c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est bien utilisé, de cette héroïne qui a des pouvoirs qui la dépassent et qui doit apprendre à les utiliser, mais qui trouve son originalité en fait dans l'environnement dans lequel il se développe et dans la manière dont ça se fait. Beaucoup de personnages que personnellement j'aime beaucoup le Guy, si je crois que je le dis mal, que je trouve très drôle. J'aime beaucoup la grand-tante de l'héroïne et j'aime beaucoup l'héroïne. Encore une fois, des personnages qui ont l'air d'être bien écrits. Je dis qui ont l'air parce qu'encore une fois, on n'est qu'au troisième épisode. Ça se laisse regarder tout à fait bien. Ce sont des épisodes qui sont assez courts, de 30 minutes, mais surtout ce sont de nouvelles découvertes qui font plaisir. Et si à une époque j'étais en gros détracteur des séries animées Netflix, ces temps-ci, bah je dois avouer que putain, bah j'ai l'impression que toutes les bonnes séries d'animation sont soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime. Et tout ce que j'ai à vous dire sur Gentry Show contre les démons, c'est que allez regarder, c'est cool. Mais je vais laisser tout de suite la parole à ma partenaire de toujours, Mel. Qu'est-ce que t'as pensé toi de Gentry Show?
Moi j'ai beaucoup aimé, j'adore l'animation que je trouve très jolie, très colorée. C'est des détails, mais par exemple les outfits de l'héroïne, j'adore. J'adore comment elle s'habille, j'adore son style, elle change de coiffure de temps en temps. Donc voilà, et ça se voit que c'est une héroïne quand même qui est plutôt pétillante. Et ça fait du bien en fait que malgré ce qui lui arrive, forcément elle déprime un peu, hein, c'est logique. Mais elle reste quand même positive et pétillante et c'est ce que j'aime bien. Donc j'ai hâte de voir la suite, honnêtement. Je pense que c'est quelque chose à regarder et à garder précieusement.
Très clairement, et puis surtout, un truc que moi j'apprécie particulièrement, encore une fois comme tu le dis, l'héroïne change de vêtement. Attendez, vous allez me dire que les héros d'animés ne portent pas toujours le même vêtement? Oui, pour une fois, on n'a pas affaire à une crasseuse. Bonjour Naruto, ça fait quoi de porter toujours le même truc au bout de 300 épisodes? Mais là n'est pas la question. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a l'air d'être quelque chose, ça a l'air d'être une série d'animation qui tout de suite, en fait, nous pousse à faire des théories. Ils ont une maîtrise du rythme qui est assez particulière. C'est pas ce que je veux dire. Je veux plutôt dire qu'ils ont une maîtrise du rythme qui est très très bonne.
Oui,
dans le sens où à la fin de chacun des épisodes, on est en mode il faut qu'on regarde le suivant. Il y a des personnages qui ont l'air d'être assez mystérieux, qui nous donnent envie. Et moi personnellement, j'ai hâte de connaître l'histoire des parents de Gentry et de Gentry. Je l'appelle Gentry, mais c'est Gentry, parce que on nous tease beaucoup de trucs, on nous donne pas beaucoup de réponses. Je veux la suite. Mais voilà, c'est je pense que j'ai fait le tour. Oui. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Mel?
Regardez, Gentry est chaud.
Et elle a raison. pour la suite, aujourd'hui, du coup, on va vous parler de Vox Machina, qui du coup est une série qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, tient aussi particulièrement à cœur à Mel. Mais Vox Machina, qu'est-ce que c'est? Vox Machina, c'est une série qui adapte une campagne de JDR qui a été faite par Critical Role. Est-ce que c'est une surprise si du coup c'est une série qui me tient particulièrement à cœur? Je ne pense pas. Critical Role, c'est un groupe de doubleurs qui ont décidé de se lancer sur Twitch et qui pour faire du JDR. Ils sont doués, ils sont dans l'univers de Donjons et Dragons et personnellement c'est vraiment un groupe que j'apprécie suivre. Et c'est peut-être le plus gros groupe, je pense, de JDR aujourd'hui, qui est c'est le groupe le plus connu. Mais cessons de parler du coup de leur créateur, Vox Machina. Qu'est-ce que c'est? Vox Machina est une série qui se déroule à Exandria, un monde créé par Matthew Mercer en 2012 pour sa campagne de Donjons et Dragons, comme je vous l'avais dit. La plupart de l'histoire se déroule sur le continent de Tal'Dorei, dans un endroit dans des endroits tels que la ville des Mandes ou la cité de Whitestone. La série suit les pérégrinations d'une troupe d'aventuriers hétéroclites, les Vox Machina, au départ mercenaires peu héroïques, acceptant des missions pour pouvoir rembourser leurs dettes et survivre, mais qui, à la suite, vont être pris un peu contre leur gré dans des aventures beaucoup plus grandes et beaucoup plus héroïques et qui vont se créer une véritable réputation et devenir des héros charismatiques et dont on aime suivre les aventures tout simplement, et dont la première aventure va tout simplement suivre explorer plutôt le passé de Percy, un des membres du groupe qui va se confronter à son passé et notamment au Briarwood. Est-ce que on a aimé chez Pop Flash? C'est un banger, comme disent les jeunes. Encore une fois, j'aime beaucoup le fait que ce soit une série qui est tirée d'une campagne de JDR, parce que ça met encore une fois le JDR en avant et ça nous permet de voir en fait que oui, on n'est pas obligé de faire du réchauffé, de prendre je ne sais quel jeu vidéo, de le charcuter et d'en créer une série médiocre. On peut aussi prendre tout simplement une campagne de JDR, ne pas la charcuter et d'en faire une série qui est tout simplement parfaite. Et évidemment, ce qui aide énormément la série, ça va être les doubleurs de cette série, aussi bien en français qu'en anglais. Personnellement, j'ai une préférence en anglais parce que c'est les doubleurs de cette série, s'ils sont les mêmes personnes qui jouent en fait les personnages de leur campagne de jeu de rôle, sans déconner, vu que c'est des doubleurs. Et du coup, en fait, on peut très vite se retrouver si on connaît tout simplement Critical Role avant. Il y a un très très grand nombre de personnages hauts en couleur. Moi, j'ai mes préférés. Je sais que Mel a ses préférés. Mais on en parlera après quand on aura la petite discussion tous les deux pour parler de qui on aime bien. Les méchants sont charismatiques. Parfois manichéens, mais pas « Oh là là, grogrogrou, je suis méchant ». Et même quand ils sont « Agrogrou, je suis méchant », ils sont bien écrits. Et ça, encore une fois, prenez-en de la graine, certains auteurs, parce que bordel, les méchants « Agrogrou, je suis méchant » mal écrits, on vous déteste. Bonjour My Hero Academia, you're next. Tu es une merde, je le dirai et je le redirai tout le temps. Toutes les personnes qui ont dit « Oh, il est trop bien », je vous déteste. Bref, encore une fois, c'est ressorti encore une fois. Mais voilà, c'est un univers qui est connu parce que c'est l'univers de D&D, mais qui du coup est aussi bourré de homebrew. Et le homebrew, c'est bien, le homebrew, c'est l'avenir. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Mel?
Alors moi j'adore Vox Machina. J'étais pas trop emballée au début parce que je me suis dit ouais, ça est adapté d'une série de JDR et tout machin. J'étais un peu râlée. Ouais, mais en fait c'est souvent ça. Je râle et puis au final je kiffe. Et non, j'ai grave kiffé. Si on n'est pas trop familier avec l'univers de Donjons et Dragons, rassurez-vous, on n'est pas perdu et c'est ça qui est cool. Donc ça c'est bien. Forcément, j'ai mes personnages préférés également. Grog, par exemple,
oui.
qui est un de mes personnages préférés. J'aime beaucoup Pike, Kiki et Percy.
En fait, tu les aimes tous.
Ouais, voilà, je les adore tous.
En fait, le truc, c'est que c'est un groupe qui est à la fois hétéroclite, mais qui se complète bien. Là, on peut en parler parce que du coup, il y a trois saisons. On va pas trop en parler des trois saisons, mais encore une fois, oui, j'adore Pike, j'adore Krog est le meilleur personnage parce que forcément Barbare là-dedans, j'aime beaucoup. J'adore Krog, j'adore Pike, j'adore le duo qu'il crée. J'aime énormément Scalan, qui est un personnage qui est au début. Alors pour l'histoire de Scalan, parce que j'ai une anecdote. Scalan, à la base, c'est un des premiers personnages qui a été imaginé pour la série, parce qu'en fait, Vox Machina, si ça existe aujourd'hui, du coup Critical Role, si ça existe aujourd'hui, c'est parce que les deux voice actors de Scalan et de Vaxalia, en fait, discutaient, et en fait, le voice actor de Vaxalia, c'est un mec qui joue JDR et qui parlait du coup avec le voice actor de Scalan, et qui, tout simplement a dit, est-ce qu'un jour, ça te dirait que tu fasses une partie de jeu de rôle? Il a dit oui, il a dit, mais j'aimerais bien faire le personnage le plus con possible, et du coup, il était en mode, ok, il faut que tu sois un gnome. Il faut que tu sois un barde. Et de là, en fait, c'est créé Scalan. Et cette partie s'est fait quelques mois plus tard. Ils ont été voir avec Matthew Mercer. Et c'est Matthew Mercer qui a lancé, en fait, tout ça. au début, c'était uniquement dans une cuisine, avec des dés et, comme on fait une partie de JDR, en fait, avec des potes. Et en fait, plus ça allait, plus ils se disaient que ça pourrait être quelque chose de bien. Ils ont commencé à trouver des sponsors, à faire ça. Et Vox Machina est né. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que c'est né. C'est vraiment, au début, Scanlan est peut-être le personnage le plus con que tu puisses faire. Et le plus ridicule. Et je trouve que son évolution est peut-être l'évolution la plus forte de tous les personnages. Et encore, vous n'avez rien vu.
Oui, je suis d'accord, Scanlan, il a une évolution incroyable. Mais ils ont tous des évolutions incroyables. Mais Scanlan, il est... En fait, Scanlan, c'est le genre de perso que j'aime bien aussi. Qu'il est un peu... Au début, tu sais, il est un peu sassy, il est un peu spicy, tout ça. Et puis, en fait, quand tu creuses, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est ça que j'aime dans ce personnage.
Et d'ailleurs, dans la saison 3, on en parle beaucoup. Et encore une fois, écriture de personnage et en fait, tout ce qui va être, émotion qui va être retransmise, je trouve que... Même si à chaque fois je dis oui, l'animation est bien, il y a des émotions, tout ça, je pense que d'un point de vue purement animation, c'est peut-être la série qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Et encore une fois, comme je le dis, vous n'avez rien vu, il y a 3 saisons et on est peut-être qu'à la moitié. La fin de la dernière saison, c'est en brise-cœur. Et après ça, j'espère qu'ils vont aussi adapter Mighty Nein, tout ça. Je me rends compte en fait que j'étais parti pour parler de Vox Machina, mais que je vais parler aussi du coup de Critical Role, parce que c'est des artistes qui personnellement...
Ça peut...
Il m'inspire. Je sais pas si Mel, toi tu le sais déjà, même pendant très longtemps, en tant que MJ, alors MJ débutant, aujourd'hui c'est plus trop le cas, mon modèle c'était Matthew Mercer. Je voulais être aussi bon que lui. Aujourd'hui je pense pas que je sois aussi bon que lui, je pense juste que je suis bon et que je suis différent.
Alors pour être honnête, je connais pas, je suis pas fan de regarder des sessions de JDR. Tu sais que moi le JDR c'est pas quelque chose qui me passionne, donc je pourrais pas te dire, mais je serais très intéressée que tu t'en parles plus dans ta chronique Lance les dés.
On pourra en parler, on pourra en parler, je peux même en parler en fait aujourd'hui s'il faut. J'avais prévu autre chose mais je peux en parler, mais bref, non plus sérieusement, on va parler de ce que j'ai prévu. Et on va se tenir à ça, mais aussi ce qui peut être très bien. Aussi dernière chose par rapport à Critical Role, il faut savoir que Critical Role est peut-être, je crois, la seule série pas créée par Donjons et Dragons qui a donné un personnage qui est devenu canon à l'univers Donjons et Dragons.
Ah bon ?
Ouais, qui est Arkham le Rouge, qui a Arkham le Rouge, si je ne me trompe pas, je peux peut-être me tromper, qui est du coup en paladin de Tiamat. Qui est du coup maintenant un personnage canon, qui a sa propre fiche et qui a son propre truc. Mais encore une fois, j'en parlerai dans la prochaine chronique Jeter les dés, qui se sera du coup en 2020. Lance les dés. C'est la même chose. Lance les dés, qui sera en 2025. C'est tout pour du coup Pop and Clap. Et on se retrouve tout de suite pour un opening. L'opening de la série dont on a parlé juste avant. La série de Gentry Show. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. c'était Cats, c'était Flame de Cats, de Cat's Eyes. Cat's Eyes, hein. Oui, donc c'était Flame de Cat's Eyes et du coup c'est la musique d'opening de Gentry Show. Et pour l'instant, je dois avouer que même si j'aime pas trop la K-pop, cette musique est, je la trouve vraiment bien en fait. J'aime bien. Mais du coup, on se retrouve tout de suite après la petite virgule pour lancer les dés. Et aujourd'hui, on va parler de Pathfinder. À tout à l'heure.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Et comme dit juste avant, aujourd'hui dans Lancer les dés, on va parler pas de Pathfinder. On va pas parler de Pathfinder, on va parler de chronique oubliée. Chronique oubliée, qu'est-ce que c'est? Chronique oubliée, c'est du coup tout simplement un jeu de rôle qui partage un système D20, un peu comme D&D, mais en beaucoup, beaucoup plus simple. Je m'explique. Chronique oubliée est de mémoire d'homme en JDR qu'on conseille beaucoup en fait aux personnes qui débutent parce qu'en fait il y a des règles beaucoup plus simples et du coup ça rend en fait tout le jeu de rôle en fait je trouve beaucoup plus fluide en fait. Personnellement, si je devais aujourd'hui aller revoir le jeune JR ou n'importe quel jeune MJ ou joueur qui voulait commencer par D&D, je lui dirais pas de commencer par D&D, mais je lui dirais de commencer par Chronique oubliée. Encore une fois, c'est un système du coup à 20 faces pour faire des actions, mais qui est beaucoup plus simple et intuitif. Ça a été créé par Black Book Edition comme beaucoup de JDR aujourd'hui. Et on peut retrouver des chroniques oubliées pour à peu près tout. Il y a des chroniques oubliées, évidemment, pour Donjons et Dragons, avec le choix des classes assez classique, en fait, de guerriers, prêtres, mages, etc. Et comme pour les races aussi, elfes, nains, etc. Mais le système d'évolution est mieux, et surtout, les arbres de pouvoir sont peut-être plus simples et moins indigestes qu'on va pouvoir trouver avant. Ce qui fait que ça rend, en fait, tout simplement, le jeu de rôle plus agréable. Mais on va aussi pouvoir retrouver des chroniques oubliées pour Cthulhu dont on parlera une autre fois, mais le Chronique oubliée de Cthulhu est une très bonne porte d'entrée pour l'univers de Cthulhu, alors que le jeu de rôle Cthulhu de base, j'y ai déjà joué avec Mel, et je peux vous assurer que niveau règles, c'est un pavé. En fait, quand je vois Chronique oubliée, j'ai l'impression que c'est ce que devrait être le JDR aujourd'hui, parce que c'est ce que demandent les gens, quelque chose de plus simple et de peut-être un peu moins violent si on veut se lancer dedans. Surtout que c'est un système qui est aussi bien adapté aux campagnes, mais aussi tout simplement en one-shot, parce que c'est facile à créer. Du coup, encore une fois, là, ça va être plus personnel, parce que j'aime Chronique oubliée, j'aime particulièrement Chronique oubliée contemporain, parce que no shit, j'adore les jeux de rôle, j'adore les jeux de rôle contemporains. Ça encourage beaucoup plus la créativité, selon moi, et aussi l'adaptabilité. Et pour tout ce qui va être, du coup, aussi... la création personnelle, ça va être beaucoup plus simple de créer dans Chronique oubliée que dans Donjons et Dragons, parce qu'en fait, il y a moins de règles et que les règles sont plus simples, et que peut-être, dans cette optique de, on ne veut pas prévoir une règle pour tout, on réussit en fait à avoir quelque chose de plus concis et de peut-être du coup de plus libre. Dans l'ensemble, je dirais tout simplement que j'ai l'impression de me répéter dans cette chronique, mais que je vous conseille Chronique oubliée, que c'est quelque chose de bien, que vous pouvez trouver une chronique oubliée pour tout ce qui vous permet, pour tous les univers que vous voulez, que ce soit cyberpunk, que ce soit dans l'espace, que ce soit contemporain, ou que ce soit dans l'épique, vous trouvez le chronique oubliée qui vous intéresse. Et même si vous cherchez en fait un univers et que vous avez déjà un univers en tête, mais que vous trouvez peut-être les règles plus compliqué. Je pense notamment à tous les JDR qui vont mélanger Shadowrun notamment, qui vont mélanger tout ce qui va être fantasy et monde moderne. Tournez-vous vers Chronique oubliée, ça vous permettra de faire les mêmes aventures, mais de manière plus simple. Voilà, je ne crache pas sur les autres. Les autres ont des gros points positifs et j'en parlerai quand on fera une chronique là-dessus. Mais voilà, cette chronique oubliée est vraiment un système que j'apprécie et qui pour lequel en fait je me tourne de plus en plus parce que tout simplement, disons que plus on grandit, moins on a de temps et moins on a de temps, moins on a envie de lire des livres de règles qui font 200 pages et du coup c'est en JDR qui, pour moi, se rapproche très proche de ce qui pourrait être le JDR parfait. Mais voilà, en ayant parlé de ça, est-ce que Mel, toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit, de Chronique Oubliée, tout simplement?
Ça a l'air sympa. Après, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais pourquoi pas essayer, peut-être, je sais pas si on peut faire des one-shots dessus. Pourquoi pas essayer quelques one-shots des Chroniques Oubliées.
Après, encore une fois, oui, là, je parle plus aux personnes qui sont MJ. Et d'ailleurs, les MJ, s'il y a des gens qui hésitent à devenir MJ, devenez-le parce qu'on manque de MJ. Mais je comprends du coup que ça tente peut-être un peu moins. Oui, on peut évidemment faire des one-shots. Hein, le jour où on fera cette partie, comme on avait dit avec Fadi, hein, on pourra faire ce one-shot. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait, un one-shot d'une heure très rapide, du coup, pendant Bob Flash? Dites-le-moi, dites-le nous en commentaire ou tout simplement, dites-le nous. Et voilà. Encore une fois, peut-être petite chose que j'ai pas dit. Le chronique visé, c'est vraiment, j'irais plutôt débutant, intermédiaire, mais même pour les experts. Et après, rejoignez une communauté de JDR. Normalement, Chronique Oubliée, c'est assez là. Vous pouvez retrouver Chronique Oubliée à la FNAC, à Sortilège ou dans tous les autres magasins que vous de jeux de rôle ou de jeux de société à Angers. Et je pense que j'ai fait le tour de lancer les dés. Ouais, ça fait environ 10 minutes, donc c'est très bien. Et du coup, on se retrouve tout de suite se retrouver du coup pour notre petite chronique bric-à-brac. On se retrouve juste après la virgule. À tout à l'heure. Quiz, blind test et surprise, bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Et du coup, dans le bric-à-brac aujourd'hui, on va tout de suite reprendre avec un petit jeu qui s'appelle le « Qui suis-je ?». Et on va commencer tout de suite par Mel qui va me faire deviner en personnage. Et du coup, Mel, c'est à toi.
Ok, alors, dans « Qui suis-je ?», on va donner des indices et puis on va devoir deviner. On a trois personnages chacun et celui qui remporte les points a gagné le titre de roi de la pop. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, ce titre, qui avait été gagné par Fadi lors de la première émission.
Est-ce que je peux parler d'un truc qui est un peu ironique?
Oui.
C'est qu'on remet le titre de roi de la pop en jeu et Fadi n'est pas là.
Eh ben oui. Oui, c'est comme ça, c'est tant pis. Les absents ont toujours tort.
Ouais, c'est vrai. Bon, c'est parti.
Ok. Alors, qui suis-je? Premier indice. Je suis une. Premier indice. Qui suis-je? Je suis un héros silencieux, mais ma bravoure parle pour moi.
Link?
Oui, mais il y a une petite nuance. Attends, j'ai d'autres indices.
Vas-y, continue.
Je viens d'un royaume où la magie, les déesses et les légendes se croisent. Bon, t'as compris que c'était Link.
Oui.
Ok. Dans mon dernier périple, j'ai exploré non seulement les terres, mais aussi les cieux et les profondeurs.
Oh, c'est le Link de merde, pas vrai, de Breath of the Wild, de Tears of Kingdom.
Oui.
C'est pas un peu mauvais, la mauvaise foi de me dire non à Link, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude.
Mais t'as le droit, t'avais jusqu'à 7 indices pour trouver.
Ok, t'en fais pas, de toute façon je rigole. Allez, à mon tour, indice numéro 1, je suis une chasseuse de primes intergalactique, souvent seule contre des menaces intergalactiques.
Je sais. Samus Prime.
Ah non, c'est pas ça. Bon, on continue. Non, si c'est ça.
Oui, Samus Prime de
Samus Aran.
Ah oui, Samus Aran.
Oui.
De Metroid Prime.
Ok. C'est à toi pour ton deuxième personnage.
Ok. Alors. Qui suis-je? Je suis une prêtresse fidèle, mais mon cœur est en conflit entre la lumière et l'ombre.
Ok, continue.
Ok, t'as jusqu'à 7 indices. Hein?
Ouais, non, mais je sais, continue.
Indice numéro 2. Mon symbole sacré est une lune inversée, reflet de ma dévotion et d'une déesse souvent crainte.
Ombre-cœur?
Oui, Ombre-cœur dans Baldur's Gate, bravo.
La best waifu.
On a une égalité.
Moi, t'as ta deuxième. Moi, je n'ai pas encore dit mon deuxième.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Est-ce que je prends... J'en ai pas mal qui sont assez durs. Je suis un assassin. Mais ma cible principale est toujours une organisation mystérieuse. Ok.
Non, attends, je sais, c'est...
Je sais, c'est le...
non, comment il s'appelle?
Le blanc est pesant d'un coup.
Non, j'ai... Merde. Ezio? Ezio?
C'est pas ça.
C'est dans Assassin's Creed.
Mon arme préférée est cachée sous ma manche et je peux grimper presque partout.
Mais oui, mais comment il s'appelle le héros dans Assassin's Creed?
Mes ancêtres et moi avons vécu des vies dans des époques très différentes.
C'est... Attends, on est d'accord que c'est le personnage principal dans Assassin's Creed.
Ouais, mais le nom, c'est quoi? Ça commence par un D. Je suis lié à un artefact ancien qui...
Non, mais j'ai compris, mais juste, c'est quoi ça?
Le nom, en fait, c'est pas Ezio. Parce que là, en fait,
mais on est d'accord que c'était Ezio, son nom.
Non, c'est pas Ezio. En fait, tu joues Ezio, mais le personnage principal n'est pas Ezio.
J'ai jamais joué à Assassin's Creed.
Là, je viens de faire comme Brigitte. Non, c'est Desmond Miles. En fait, tu joues Ezio, mais en fait, Ezio est le... Tu sais, ah, peut-être que c'est trop dur, désolé. Ezio est le... est l'ancêtre de Desmond. Et en fait, Desmond, c'est le personnage principal des trois premiers. Et au bout du troisième, là, j'ai le droit de spoiler, ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. Si vous n'avez pas vu la fin de Assassin's Creed, jouez au jeu. Mais en fait, il est lié à la pomme d'Adam. À une des pommes d'Adam.
D'accord.
Ok, c'est pas grave.
Mais on est d'accord que j'ai dit personnage principal de Assassin's Creed, ça compte.
Non. À la limite, je donne un demi-point.
Allez, super, j'ai perdu.
Le roi de la pop, ce sera moi.
Ah bah, je pense, oui.
Vas-y, continue.
Ok, très bien. Pour le troisième, je suis une artiste sans voix.
Ok.
C'est ça l'indice, le premier indice.
Attends, redis.
Je suis une artiste sans voix.
Ok.
T'as pas ?
Non.
Deuxième indice. Mes doigts dansent sur un instrument mystérieux.
Sona ?
Oui.
Tu sais, après, peut-être que aussi, si tu prenais pas des personnages dont tu fais une pixette, peut-être que ce serait plus dur. Mais, ou alors, peut-être
j'ai pas
juste
mis
que Astarion,
hein.
Je suis peut-être juste trop fort, en fait. Attends, je regarde. Ouais, mes chevilles viennent de gonfler.
Allez, mais... le dernier personnage.
Tu sais quoi, j'étais méchant pour Desmond, je te laisse me trouver en... Je te donne le point, comme ça on a égalité, et tu peux me trouver une autre, un autre truc.
Ok.
Alors, ça va être un personnage un peu plus... je sais pas si tu as déjà joué, en fait. Je suis un animal anthropomorphe qui adore les anneaux dorés.
Sonic.
Voilà, bravo.
C'était facile,
vas-y,
celui-là. Ok, alors... Dernier pour toi, du coup. Oui. C'est un peu de la triche, mais bon, c'est pas grave.
J'en fais un dernier aussi.
Ok. Qui suis-je ? Je suis un musicien nomade connu dans le monde entier, mais je voyage sans rien demander en retour.
Je sais pas.
Ok. Indice numéro 2. Mon instrument fétiche est une guitare et mes concerts sont toujours un moment de détente pour mes spectateurs.
Ok, je sais pas.
Il est un peu dur celui-là.
Je sais pas.
Indice 3. J'ai un look simple. Un pelage blanc, des yeux sombres et un visage toujours calme.
Un pelage blanc ? Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que c'est que...
Allez, et là, t'as que 5 indices.
Vas-y.
Mon répertoire est vaste, allant de ballades mélancoliques à des morceaux enjoués.
C'est donc... Quoi ? Quoi ?
T'as toujours pas ?
Je sais pas.
Dernier indice, je suis aussi connue sous un autre nom lorsque je mixe sur les platines lors de soirées spéciales.
Non mais tu m'as sorti encore un personnage sombre du fin fond du dark web, c'est quoi ça? C'est quoi ce personnage Fury?
Allez, un dernier indice.
Oui.
C'est pas un personnage Fury, c'est un chien.
Quoi? Quoi?
Si je te dis que ces chansons... Il n'y a pas vraiment de paroles, ou quand il y a des paroles, bah, tu peux pas les comprendre.
Ah, c'est le connard d'Animal Crossing.
C'est Kéké la glisse.
Ouais, mais du coup, ça compte.
Bah non, le connard d'Animal Crossing. En plus, c'est pas un connard, Kéké. Tom Nook, oui, mais.
Allez,
le dernier.
Je manie souvent des pistolets doubles et j'escalade des falaises avec aisance.
Lara Croft.
il compte pas celui-là. Un autre.
Mais c'était super facile.
C'était super facile. Il compte pas celui-là. Un autre. Est-ce que c'est de la triche? Oui. Est-ce que c'est mon émission? Je fais ce que je veux.
Va falloir bientôt arrêter.
On va faire un dernier.
Allez, le dernier, celui qui. Alors, le dernier, si je trouve, je gagne.
Ok, d'accord. Et si tu trouves pas, par contre, je gagne.
Bah non, parce que j'ai gagné techniquement, mais.
Non, c'est moi qui ai gagné.
Allez, le dernier gagne tout.
le dernier gagne tout, ok. Je suis un détective privé, mais mes enquêtes mènent souvent à combattre des créatures cauchemardesques.
Black Cat.
Non. Mon univers.
Batman.
Non. Mon univers est fortement influencé par les mythes de Cthulhu.
Bon, il faut mettre des trucs que je connais aussi.
Non, mais tu m'as pas vu y jouer peut-être. Bon, maintenant. T'as gagné, bravo, t'as gagné, Mel.
C'était qui?
Attends, comment il s'appelle encore ce con? Il s'appelle c'est pas Desperate, c'est
pas
Jack Walters. Si, c'est Jack Walters. C'est le protagoniste de Cthulhu Dark Corners of Earth. C'est un jeu Cthulhu.
Me fais pas genre que tu connais
si,
pas toi-même. Menteur.
J'y ai joué.
Menteur.
Oui, c'est ça, menteur. Moi, je vois surtout une rageuse parce que le roi de la pop, c'est moi.
Je pense que j'ai gagné. Dites-nous dans les commentaires qui a gagné. Moi, je pense que c'est moi.
Sinon, on peut se mettre accord sur un nouveau accord. C'est que, étant donné que c'est normalement Fadi, le roi de la pop, et qu'il n'est pas là pour mettre en jeu son rôle, aucun des usurpateurs n'a réussi à se départager. Le roi, c'est toujours Fadi.
Ok, ça marche, on peut faire ça.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Moi, en tout cas, je vais tout simplement vous souhaiter une très très bonne fin de soirée. C'était la dernière émission de l'année. Toute l'équipe de Podplage vous souhaite une très bonne fin d'année. Profitez avec vos familles, profitez de Noël. Ne vous mettez pas trop cher le soir du Nouvel An. Et nous, on se retrouve de toute façon le premier mercredi du mois de janvier.
Le 1er janvier, en fait.
On aura peut-être la gueule de bois, on n'aura peut-être pas la gueule de bois, on verra. Mais de toute façon, on se retrouvera pour une émission avec Fadi. Sur ce, on vous souhaite plein de bisous. Bonne année, bonne santé, prenez soin de vous. Et des bisous tout le monde.
Joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes.
Bisous.
Bisous.
Coming down, breaking to the contents, never falling down. My knees too shaken, like I was 12, sneaking out the classroom. But a back door, I'm right up between some. But I didn't care, waiting is wasting for people like me. Don't try to live so.
Radio G 101.5 FM.